mesmo. Don't miss my size, as I am. Bim bam bam, I fall down in shame again on me. Cause you laughing with your friends about me with the comportamiento. I'm picking a freaking outdating my hellos and women consistent, too persistent. I'm cold and distant, remember me and all the girls are driving crazy. I drive them crazy cause I'm lazy. I don't give a damn, you know I'm fucking lazy. I don't give a damn. I'm picky cause I'm all alone. And maybe I'm alone cause I'm a picky one. I've got a lot of girls waiting for me not to call. Another Sunday morning.
Salut à vous et bienvenue sur 8FM où je vous ai fait ma sélection d'un nouveau meilleur moment de la rédaction de 8FM. Bonne écoute.
Un RER métropolitain à Bordeaux. Le projet est en cours de réflexion. Ces dernières semaines, des concertations publiques avaient lieu avec les habitants de la métropole de Bordeaux. Concertations auxquelles ont assisté les membres de l'association de citoyens Transcube. Jacques Dubos, son président, juge l'actuel projet de RER métropolitain inefficace.
Alors, ce qu'on retient comme sujet autour de ce projet, c'est ses insuffisances. Son inefficacité, son inéquitabilité, et je m'explique. Inefficace pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'entre 2020 et 2030, il y aura 600 000 déplacements en plus sur Bordeaux Métropole. 600 000. Les TER, avec des chiffres qui sont tirés du dossier mis à la concertation, il n'y aura que 7 000 usagers qui seront supplémentaires, qui seront gérés par les TER. Donc on voit 7 000 par rapport à 600 000, c'est à peu près 1% des déplacements qui seront réalisés grâce à ce projet. Donc on voit les limites du RER métropolitain et la contradiction avec l'ambition affichée qui ne correspond pas du tout à la réalité. Il est inéquitable pourquoi ? Parce qu'en fait il va multiplier les TER aux heures creuses, alors que d'ores et déjà les TER sont vides à 70%, et par contre ils sont congestionnés aux heures de pointe. Et donc on verra tout à l'heure dans les propositions que l'on fait, c'est bien là qu'il faut agir. Et d'autre part, il sera inéquitable parce que comme il va desservir toutes les gares, plus on habite loin, plus ça pénalise parce que ça allonge le temps de trajet, puisque chaque arrêt comprend au moins 2 minutes 30 d'arrêt pour les trains dans chaque gare. Bah, juste un dernier point, hein, c'est-à-dire que normalement une concertation c'est fait pour étudier l'opportunité de projet. Or là, on n'a pas pu en discuter. Le projet, il est déjà lancé en quelque sorte, et on n'avait qu'à discuter autour de sa réalisation. Or, il était intéressant par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, c'est 1% de transport, de trafic par rapport à l'explosion des déplacements qu'il va y avoir sur la métropole, de se poser la question s'il n'y avait pas des solutions beaucoup plus pertinentes. Et ça, il n'a pas été possible de le porter. Et puis, on a demandé un certain nombre de documents qui justifieraient ce projet. Et en fait, on a eu un refus à la fois mais essentiellement de la région, pour les soumettre à la concertation.
Et l'association a fait plusieurs propositions.
Alors, ce qu'on propose, on propose 8 propositions, en fait, que l'on a faites dans le cadre de la concertation. La première, c'est d'accroître la capacité des trains aux heures de pointe, là où il y a un besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre des trains aux heures creuses, comme je vous l'ai dit. Ça ne sert strictement à rien. On va les faire tourner à vide et ils vont consommer de l'énergie en ces périodes où il faut limiter sa consommation. Par contre, aux heures creuses, ça veut dire qu'il faut doubler les rames, et en particulier sur la ligne Bordeaux-Arcachon, qui est la ligne la plus chargée. Le deuxième point, c'est étendre le périmètre de ce RER qui est appelé métropolitain et qui devrait être girondin. Les différentes réunions publiques ont fait ressortir que les gens du département, les habitants du département n'étaient pas contents. Ceux de Libourne se sont plaints qu'ils n'aillent pas plus loin, que ça aille pas jusqu'à Saint-Denis-de-Pile et Coutras. Ceux de Langon se sont plaints que ça n'aille pas plus loin, Saint-Macaire, La Réole, voire jusqu'à Marmande, qui est dans l'aire d'attractivité de la métropole. Et ceux du Médoc se sont plaints que ça n'aille pas au-delà de Mâcon pour aller au moins jusqu'à l'ESPA. Donc ça, c'est le deuxième point. Ça devrait devenir un RER girondin et non pas métropolitain. On est Bordelot centré quoi, dans ce projet. La troisième proposition, c'est faire de la gare de Talence-Médoquine un pôle multimodal régional. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce projet prévoit la réouverture de cette gare, mais elle prévoit une construction au rabais des quais qui fera que, en fait, on ne pourra pas accueillir les trains qui viennent du sud, c'est-à-dire de Dax, Pau, Bayonne, Hendaye. Et donc, il faut savoir que cette gare de Talence-Médoquine a vocation à devenir la principale gare de la métropole. Pourquoi ? Parce qu'elle sera un hub qui desservira à la fois le CHU d'un côté et le campus de l'autre. Or, les gens qui viennent de Dax, Pau, Bayonne, Hendaye, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, il y a beaucoup de salariés qui viennent et qui auraient intérêt à pouvoir descendre à cette gare, ce ne sera pas le cas. Le quatrième point, c'est toujours sur cette gare de Talence-Médoquine, avec proposer des trains, des TER semi-directs, mais on va en reparler un peu parce que c'est un peu plus loin, parce que c'est une demande que l'on fait de façon beaucoup plus générale sur toutes les lignes. C'est qu'il faut des trains semi-directs pour les trajets longs et des trains omnibus, comme selon la terminologie, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent à chaque gare, pour plus les trajets sont courts. Et pour ça, on a besoin d'aménager deux gares essentiellement. L'une à Moulis-Listrac pour les trains du Médoc et l'autre à Beautiran pour les trains de Langon. Pourquoi ? Parce que ces gares permettraient en fait aux trains qui sont plus rapides, donc semi-directs, de dépasser ceux qui sont plus lents et qui feraient de l'omnibus. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et sur la ligne d'Arcachon, cette gare elle existe déjà, et il s'agit de celle de Bordeaux-Sestas. Donc là, il n'y a pas de problème, ça peut très bien le faire, on peut mettre en place des semi-directs avec des omnibus. Le sixième point, c'est aujourd'hui, la moitié des trains du Médoc, vont à Pessac, l'autre moitié va à Bordeaux-Saint-Jean. Et toutes les études montrent que, en fait, il n'y a personne, ou très peu de personnes, ça se compte sur les doigts d'une main, qui ont un besoin de descendre à la gare de Pessac. Donc, il faut rééquilibrer ces trains, et le besoin, il est pour aller vers la gare Saint-Jean, et demain, ce sera justement pour descendre à la gare de Talence-Médoquine. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de trains qui vont jusqu'à Pessac, inutilement, c'est-à-dire qu'ils roulent pratiquement à vide. Le septième point, c'est un sujet qui est revenu souvent dans les réunions publiques. Les gens se sont plaints que lorsqu'ils descendaient dans une gare, souvent, pour eux, ce n'était pas le terminus de leur voyage. Et derrière, ils avaient besoin de prendre un car. Vous ne savez peut-être pas, jusqu'en 2020, les cars étaient de la compétence du département. Depuis 2020, ils sont de la compétence de la région. Donc, je vais vous prendre un exemple. Quand vous descendez à Langon, en fait, si vous avez besoin d'aller jusqu'à Préchac, Bernos-Bolac, je sais pas moi, vous prenez un bus. Après que vous voyez en voiture, bien sûr, mais il y a un certain nombre de personnes qui prennent le bus. Quand vous descendez à l'Espar, eh ben, parfois vous pouvez aller jusqu'à Montalivet, vous pouvez aller jusqu'à Hourtin, et là aussi vous avez besoin d'un bus. Et alors ce qu'ont demandé les gens, en fait, les usagers, c'est de faire en sorte qu'il y ait une correspondance réelle entre les TER et les bus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, souvent, quand le TER arrive, eh ben, le bus il est déjà parti. Donc vous voyez la problématique que ça pose aux usagers. Et ça, c'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup d'argent. Ça demande une réunion d'harmonisation entre les horaires des TER et ceux des bus. Quitte à ce que les bus attendent un TER qui pourrait être légèrement en retard. Et le deuxième sujet, c'est la désaturation des parcs de stationnement. En particulier, justement, à l'Espar et à Langon, où il y a beaucoup de gens qui se garent, qui arrivent en voiture, et qui, il y a un phénomène de saturation, des parkings autour de la gare. Et ce projet, justement, ne prévoit rien en termes d'aménagement des gares. Donc, ce qui est pour nous un manque. Et la dernière proposition que l'on fait, c'est la mise en place d'une carte Navigo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'équivalent qui se passe en région parisienne, pour faire en sorte qu'en fait, avec un seul ticket, on puisse prendre n'importe quel moyen de transport, c'est-à-dire le TER, le bus express, soit le bus de TBM, ou le bus de Libourne, ou le bus de je sais pas moi, de Langon, s'il y en a, ou le bus de d'Arcachon, voyez, qui est un seul ticket pour l'ensemble des moyens de transport, comme ça se fait en région parisienne, pour permettre, avec un système sûrement de zones, pour faire en sorte que plus vous allez loin, plus vous payez cher, mais en tout cas qui simplifie la vie des gens. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une problématique de coût, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez les bus express, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que le TER. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis un utilisateur régulier de Blablacar. Ben, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers Blablacar pour une raison, c'est le tarif des TER. Voilà, c'est plus cher. Et donc, un pass type Navigo, hein, on a l'exemple en région parisienne, ça simplifierait et ça donnerait beaucoup plus de visibilité aux usagers sur l'ensemble des transports de la Gironde, puisqu'on demande un RER, enfin un projet de RER girondin. Ce sont des propositions qui à la fois émanent des usagers, hein, c'est-à-dire qu'on a entendu lors des réunions de concertation, donc que SNCF Réseau, que la région a entendu, et puis ça, il y en a d'autres, elles émanent de nos propres réflexions. Donc ce qu'on attend, c'est qu'effectivement on revienne à plus de raisons. Parce qu'aujourd'hui, on est face à des difficultés économiques, à des problématiques de financement. Et donc là, on va mettre 600 millions d'euros pour un projet qui, de notre point de vue, ne résoudra en rien les déplacements, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, 1% des déplacements, c'est l'ambition de ce projet, sur les 600 000 à l'horizon 2030. Donc ça nous paraît, comment vous dire ça, pour donner une image, c'est prendre un marteau pour écraser une puce, quoi, hein.
Transcube qui a aussi réagi à l'annonce d'Emmanuel Macron de voir se développer les RER métropolitains dans 10 métropoles françaises, dont Bordeaux.
Et parce qu'en fait, c'est une fausse annonce. En fait, ce RER girondin, enfin ce RER métropolitain, tel qu'il est annoncé aujourd'hui, il est issu d'une décision gouvernementale. Donc il y a très longtemps que cette décision a déjà été prise. Donc je ne comprends pas bien le timing de cette annonce, puisque le RER de Bordeaux, tel qu'il est prévu, c'est déjà issu de ce souhait de mettre un RER dans les plus grosses métropoles de la France. Avec les limites que je viens de... Enfin, c'est pas les limites, les réserves, les grosses réserves que l'on vient de vous donner, parce que un RER tel qu'il est prévu ne résoudra en rien les problématiques de déplacement s'il ne comprend pas d'autres volets tout aussi, voire beaucoup plus importants. Parce que quid aujourd'hui des problématiques sur la rocade, qui ne seront pas résolus par le RER, quid des liaisons transverses, parce que là vous le comprenez, le RER ce n'est qu'un projet en étoile, hein, c'est-à-dire qu'on va toujours de la périphérie vers le centre. Mais les déplacements, c'est pas aussi simple que ça, hein, les déplacements, d'ailleurs lors des réunions publiques ça a été dit très souvent, hein, quand vous venez de Langon par exemple, la majorité des gens qui viennent travailler sur Bordeaux, ils viennent pas au centre de Bordeaux, beaucoup vont en fait dans la zone aéroportuaire autour de Mérignac, du Hayon. Donc vous voyez que le RER ne résoudra absolument pas ces problématiques de flux. Elle ne résoudra pas les problématiques des flux de camions. Voilà, elle ne résoudra pas la saturation du tramway dans le centre-ville, aux heures de pointe. Voilà, on nous annonce que c'est une solution miraculeuse et ça ne le sera pas.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur 8FM. Bienvenue sur 8FM, la seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nous sur 8FM.
Marc Vériot est aujourd'hui conférencier en entreprise. Il distille ses conseils en matière de gestion du stress. Le stress, c'est une émotion qu'il connaît, qu'il a su apprivoiser. Entre 1998 et 2018, il a fait partie du RAID, l'unité d'élite de la police. Et sa spécialité, c'était l'effraction pour permettre à la colonne d'assaut d'intervenir. Marc Vériot, quel moment vous a le plus marqué pendant ces 20 ans?
Les dernières interventions de 2012, l'affaire Mohamed Merah, mais aussi toutes les affaires antiterroriste de 2015, l'affaire Mohamed Merah le 21 mars 2012, parce que j'y ai été blessé de 2 balles, une balle dans l'épaule et une balle dans le casque, qui a fait hémorragie cérébrale, donc forcément cette intervention me touche, mais aussi l'hypercachère. J'ai participé à ouvrir la porte à l'explosif de la porte de service de l'hypercachère, une porte que tout le monde pensait qu'on n'arriverait pas à ouvrir parce que elle était particulièrement renforcée pour résister aux cambrioleurs. On a réussi à l'ouvrir et donc ça a donné le top intervention et ça a participé à libérer les 26 otages. Donc ça aussi c'est marquant. Bien sûr aussi les interventions du 13 novembre. Moi je suis intervenu sur un immeuble à côté du bar La Bonne Bière où il y avait 5 morts. Voilà, c'est les 2 années fortes, c'était 2012 et 2015 en effet.
Comment se sent-on avant un assaut? Est-ce qu'on est anxieux ou complètement concentré sur sa tâche?
On est particulièrement concentré. Parce qu'en fait, on sait par expérience et l'entraînement nous amène à ça. On sait que on va avoir besoin de 100% de notre cerveau pour nous confronter à ces affaires extrêmes et que si jamais On laisse 10-20% de notre cerveau aller vers le passé, vers notre famille, vers nos autres problèmes, c'est 20% qui vont nous manquer. Donc le but du jeu, c'est de se concentrer uniquement sur les points importants qui vont nous renseigner sur la tâche à effectuer. Et tout le reste, eh bien, on s'en décharge au briefing et au débriefing. On a des émotions. La peur de prendre des balles, on doit la garder toujours parce que c'est elle qui nous fait lever le bouclier, par exemple. Mais par contre, on se décharge de la majorité des autres émotions. On doit faire notre travail de la même manière, même si on a un mort à enjamber, même si on a 10 morts à enjamber, même si on a 100 morts à enjamber, parce que ces informations-là sont pas vraiment importantes dans la tâche qu'on a à gérer. Alors bien sûr, ça pose quand même des problèmes parce que même si on arrive à mettre de côté tout ça, notre cerveau l'enregistre quand même et on risque de le payer un petit peu plus tard.
Et justement, quelles conséquences ces expériences extrêmement fortes ont-elles à long terme sur vous et vos collègues?
Tous, on est attentifs à ça. Parce que autour de nous, on a des anciens qui ont subi des dépressions nerveuses 10 ans après une intervention difficile. Alors bien sûr, c'est assez difficile à maîtriser parce que tous ces problèmes-là sont un petit peu multicausales. Il n'y a pas que l'intervention qui fait que tu risques d'avoir un coup de fatigue. Il y a aussi quand ça s'ajoute à des problèmes personnels ou à des problèmes professionnels. Bon, cependant, étant donné qu'on a l'expérience de nos anciens qui nous disent attention, il y a un effet cumul. Un gros stress peut faire du mal, mais également aussi le cumul engendré par les différentes interventions qui s'additionnent. On fait attention à ça. Alors au cœur de la colonne, la contre-mesure, c'est déjà d'avoir une hétérogénéité dans le groupe. On a des jeunes qui risquent de bugger parce que le stress de la découverte, mais on a aussi des anciens qui certes risque aussi de bugger, mais pour un effet cumul. Mais tous ces différents profils, de gens mariés, de gens célibataires, de gens, certes, qui viennent faire un enfant, de gens qui ont déjà été blessés une fois, de gens qui n'ont jamais été blessés. Ça fait que le groupe, en fait, puise sa force dans l'hétérogénéité et on ne bug jamais au même moment. Les anciens nous disaient, attention, c'est un service, faut pas y rester plus de 10 ans. Parce que il y a un effet cumul. Mais tout ça, c'est une caricature. Bon, moi, j'y suis resté 20 ans. Alors quand j'ai un petit moment de moins bien, eh bien, je fais attention. Je surveille mon hygiène de vie. J'essaie de me coucher à des heures plus stables. En faisant attention à soi, on évite de plonger.
Quel rapport vous entretenez avec la mort, notamment le fait de pouvoir potentiellement la donner à quelqu'un?
Nous, dès qu'on nous donne une arme dans la police, même avant même d'être au raid, si on a les pieds sur terre, on doit se rendre compte que cette arme-là, on nous la donne pas de manière banale. C'est pas un stylo qu'on vous donne, c'est une arme. Et on sait très bien à quoi ça sert. Donc, on y réfléchit dès ce moment-là. Après, quand on rentre au raid, c'est encore plus caractéristique. Moi, je me souviens, par exemple, de ma première séance de tir, qui était dirigée par celui qui a été obligé d'éliminer Human Bomb en 93. Eh bien, la séance de tir, elle n'a duré que 10 minutes. On a tiré sur des cibles en papier. Il a interrompu la séance et il nous a dit, vous voyez, ce que vous faites là actuellement, c'est du tir sportif. Le tir police, c'est ça. Et hop, il nous a montré des photos ignobles de Maccabée tués par balle avec des crânes explosés, etc. Et il nous a dit, voilà, ça c'est vous si vous tirez en retard. C'est votre camarade si vous tirez en retard. C'est un otage si vous tirez en retard. On sait que on a dans les mains quelque chose de grave, quoi. On sent l'arme, une arme qui pèse 500 grammes dans la vraie vie sur une balance. Nous, dans nos mains, elle pèse beaucoup plus lourd. On sait que les conséquences et les émotions qu'elle porte, tout ça, on y pense avant, parce qu'au cœur de l'action, par contre, faut plus y penser. Si au cœur de l'action, un terroriste vous tire dessus et que vous ne pouvez pas faire autrement que de riposter, il faut pas se poser la question. On tire pas sur un homme, sur une femme, sur un ancien. On tire sur une menace. Et ça, c'est dépourvu d'émotions. C'est purement professionnel.
La mort, vous l'avez frôlée le 21 mars 2012 lors de l'assaut de l'appartement de Mohamed Merah à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cet assaut?
L'intervention a duré 33 heures pour essayer de l'avoir vivant, puisque c'est la procédure habituelle. On a eu un blessé d'entrée de jeu au genou. Au bout de 2 heures et demie d'intervention, j'ai été touché à l'épaule et au casque. J'ai pris la première balle en plein milieu du casque. J'étais à 2 mètres et demi environ du terroriste. Et cette balle a été arrêtée par le casque. Ça m'a fait vriller, ça m'a fait basculer. Et heureusement, parce que la deuxième balle qui m'arrivait pleine gorge, finalement, m'a frappé l'arrière de l'omoplate. Donc voilà, je suis tombé dans les escaliers. Je me suis vite protégé sous l'escalier parce que il a vidé son chargeur. Les 5 autres balles du chargeur, ce sont des chargeurs de 7. C'est des grosses balles. C'est du 11-43. Il tirait avec des pistolets automatiques que les GIs de la Deuxième Guerre mondiale utilisaient. Ce sont des balles qui tuent très bien parce qu'elles sont très grosses. Mais par contre, leur défaut, c'est que comme elles sont grosses, elles traversent mal les blindages. C'est ça qui m'a sauvé parce que le casque a arrêté la balle. Sous l'escalier, j'ai quand même été frappé par l'enfoncement du casque. C'est ça qui a créé une hémorragie cérébrale. Donc j'ai eu un peu un réflexe d'enfant. Je sentais que j'étais touché à la tête. Donc j'ai touché mon casque. J'avais confirmation que j'étais blessé. J'ai passé ma main sous le casque en pensant toucher du sang, mais il n'y avait pas de sang. Et tout de suite, j'ai été ramené à l'intervention par un opérateur qui a crié « Marco est touché, faut aller le chercher ». Là, je me suis dit, mince, ils vont passer devant la zone dangereuse. Ils vont peut-être eux aussi prendre des balles. Donc, j'ai signalé à la radio que j'étais blessé, mais que ça allait relativement bien et que j'allais être capable de m'exfiltrer seul. J'ai été récupéré par les pompiers qui m'ont amené 10 minutes après. J'étais à l'hôpital et je subissais des soins.
Marc Vériot, vous venez de sortir un livre intitulé « Au cœur du raid ». Pourquoi écrire ce livre, justement?
Je pense que c'est notre devoir d'ancien de donner les informations aux plus jeunes. Voilà, moi, il y avait une phrase qui m'a toujours un petit peu marqué, c'est « Dans une vie, il faut faire des enfants, planter un arbre et faire un livre ». Voilà, c'est une manière, c'est notre devoir de transmettre les informations. Alors moi, bien sûr, en ayant été 20 ans dans la colonne d'assaut et en ayant connu les années particulièrement denses de 2012-2015, je trouvais que c'était normal de retranscrire un petit peu toutes les connaissances que j'avais apprises dans un livre. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi un petit peu plus de la colère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société de la communication, il y a beaucoup de gens qui disent pas mal de bêtises dans les livres et dans les émissions télé, etc. Hier, un menteur, il mentait à son voisin de droite et son voisin de gauche au bar. Donc, il faisait pas beaucoup de mal. Aujourd'hui, un menteur, il inonde le monde entier de d'âneries en un seul clic sur l'ordinateur. Et moi, je trouvais que les opérateurs d'assaut n'ont pas beaucoup la parole, puisqu'en règle générale, on a la cagoule, et que c'était le moment de faire parler la colonne d'assaut, mes camarades et moi.
Au cœur du raid de Marc Vériot, coécrit avec Karim Ben Ismail et paru aux éditions Les Arènes.
Vous êtes au cœur de la nuit, et on repart en musique sur 8FM.
Est-ce que tu vois? up to me to stop the fool. Est-ce que tu vois?
Vous avez appris des choses sur 8FM. Alors continuez de nous écouter, parce que ce n'est pas fini. Bonne écoute.
Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 1.
Voiture électrique contre voiture thermique, qui est la plus polluante ? Il semble évident qu'une voiture propulsée grâce à l'énergie électrique pollue moins qu'une voiture diesel ou essence. Mais beaucoup de questions persistent sur la consommation d'une voiture électrique et les éléments qui la composent. Au 1er janvier 2022, la France comptait 38,7 millions de voitures en circulation, mais seul 1% était électrique selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Les ventes de voitures électriques ont pourtant progressé, représentant 12,9% des nouvelles immatriculations en 2022. Elle devient aussi la première alternative aux motorisations thermiques devant l'hybride rechargeable. Et s'il reste minoritaire, les utilisateurs de véhicules électriques se font de plus en plus nombreux et sont même représentés par une fédération, la FAUVE, pour Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicules Électriques. Elle s'est développée à partir de l'année 2016 et se donne pour mission de promouvoir les intérêts des utilisateurs de véhicules électriques, que ce soit auprès des institutionnels, des constructeurs ou tout autre acteur de secteur des nouvelles mobilités. Vincent Larnicol fait partie de la FAUVE. Habitant en Essonne, il possède une petite citadine depuis près de 10 ans et pensait à cette mobilité depuis bien longtemps.
Ça fait 30 ans que je m'intéresse à la voiture électrique. Mon point de départ, c'était une raison politique. Parce que la voiture électrique, c'est de l'argent qui reste chez nous. Alors que quand on utilise une voiture thermique, ben, on finance des pays étrangers qui n'ont pas forcément une politique très vertueuse, disons. Donc voilà, ça a été mon premier point de départ. Ensuite, il se trouve que j'ai eu l'occasion au salon de l'automobile en 2010 d'utiliser la voiture que j'ai achetée ensuite en 2012. J'ai constaté qu'en termes de confort, c'était nettement plus intéressant qu'une voiture thermique, parce que ça faisait pas de bruit, parce que c'est une accélération linéaire, facile, pas de vitesse à passer, pas d'à-coups, etc.
En France, la voiture reste le mode de transport le plus utilisé, et donc majoritairement en moteur thermique. L'objectif de fin de vente des voitures thermiques est fixé à l'horizon 2035 pour notre pays, car il est reconnu que la voiture électrique reste la meilleure technologie pour décarboner le parc automobile. Une notion confirmée par Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports.
Première réponse, c'est qu'il y a une partie technologique à la transition qu'on doit faire, et notamment passer davantage à l'électrique qui est meilleure d'un point de vue climat, qui est meilleur d'un point de vue de la pollution de l'air aussi. Par exemple, un véhicule au pétrole tel qu'on en a aujourd'hui, il va consommer 10 tonnes de pétrole sur l'ensemble de sa durée de vie. Donc c'est des consommations qui sont énormes, il y a des gros impacts environnementaux liés à ça. Si on passe au véhicule électrique, il y aura aussi des impacts environnementaux. Mais vis-à-vis des principaux défis environnementaux qu'on a actuellement, notamment le défi vraiment très structurant du changement climatique, c'est aujourd'hui ce qu'on a de mieux, ou en tout cas ce qu'on a de moins pire, quelque part on pourrait dire ça, pour notre transition. Mais comme il y a aussi des impacts qui sont importants avec le véhicule électrique, si on veut réussir à faire une transition globale qui limite un peu l'ensemble des impacts environnementaux, il faut à la fois passer à l'électrique, mais aussi aller vers des véhicules qui sont plus légers, autant que possible utiliser la marche, le vélo, le train quand on le peut, revoir un peu l'aménagement du territoire, les modes de vie pour réussir à avoir des déplacements qui sont moins longs, covoiturés, etc. Il y a tout un panel de solutions aussi qu'il va falloir mettre en place pour réduire plus globalement les impacts environnementaux de nos transports.
Tous les grands constructeurs automobiles ont passé le pas et proposent sans cesse de nouvelles innovations autour de l'électrique. Pourtant, d'un point de vue extérieur, nous avons souvent l'impression que certains milieux stagnent et que cela fait 10 ans que l'on nous vend la Renault Zoé comme la solution à nos déplacements en ville. Parmi les nouvelles solutions, il existe aussi le projet Avatar, un véhicule pour les trajets du quotidien et dont la commercialisation est prévue pour cette année 2023. Frédéric Mourier est le porteur de ce projet.
Finalement, au lieu de regarder juste ce qui sort du pot d'échappement quand il y en a un, regarder globalement l'impact d'un véhicule. C'est vraiment la logique vers laquelle il faut tendre et vers laquelle on tend en s'étant mis plein de contraintes au niveau du cahier des charges, en se disant, nous, le véhicule doit être à la fois très peu impactant, le plus efficient possible, très abordable et très pratique pour remplacer les usages de la voiture pleinement au quotidien. Une solution un peu chez nous manquant entre le vélo et la voiture, si vous voulez. Pour un même déplacement, on va consommer 5 fois moins d'énergie. En ACV global, on est à peu près 5 fois moins impactant qu'un véhicule électrique ou thermique. Alors vous allez me dire, ça dépend desquels, mais voilà, on se compare souvent à une Zoé, par exemple. Tous les chiffres, grosso modo, on divise à peu près tout par 5.
Quels arguments avancer pour convaincre les Français qu'Avatar est un véhicule électrique fiable ? Bien sûr, une utilisation différente des voitures électriques actuelles, mais aussi une manière différente de fournir de l'énergie à ce type de véhicule.
Alors, il y a plusieurs modes. En fait, si vous en avez vu des images, il y a de la surface de panneaux solaires qui, justement, va faire une partie de la charge. Donc, par une journée bien ensoleillée, on aura une autonomie de 30 à 40 km qui sera produite uniquement par le soleil, ce qui peut, du coup, rendre le véhicule autonome si on fait moins que ça. Et puis, sinon, très classiquement, on peut se mettre sur une prise domestique ou en station de recharge. Et à ça s'ajoute des batteries qui sont extractibles. En fait, on a des batteries relativement légères, hein, du poids d'une bouteille de gaz, par exemple. Donc, on peut les extraire, les remplacer, repartir instantanément. Donc, voilà, il y a ces trois modes qui se complètent très, très bien. Il faut voir que ça n'est possible que parce que le véhicule est extrêmement léger, extrêmement efficient, consomme très peu, et que finalement, l'ensemble du véhicule est plus léger qu'une seule batterie de Zoé. Et les batteries de notre véhicule, individuellement, sont 20 fois plus légères qu'une batterie de Zoé. Et c'est pas du tout les mêmes dimensions, sont pas non plus du tout les mêmes capacités. Mais finalement, on arrive à avoir des autonomies très raisonnables et très suffisantes pour le quotidien. La Zoé étant elle-même déjà une voiture électrique, une des plus pertinentes et efficientes du marché. C'est pour ça qu'elle a aussi un tel succès.
Alors, que retenir de tout ça ? Visiblement, le thermique est une plaie pour l'avenir de notre planète. Et ce n'est pas un constat fait au hasard. Les transports restent le poste principal d'émissions de CO2 et 77% de ce taux est lié aux véhicules motorisés individuels selon le cabinet de conseil Carbone 4. Donc, la voiture électrique va résoudre tous les problèmes. Eh bien, pas si sûr. Christophe Debonne, membre de la Fauve et propriétaire d'une Tesla Model 3, est aussi d'accord pour relativiser sur ce propos.
Le véhicule électrique n'est pas la solution merveilleuse. Il y a peut-être eu une erreur de communication de dire le véhicule zéro émission. Voilà, on voit que Renault a changé un peu son fusil d'épaule aussi en abandonnant le sigle Z2. Mais aujourd'hui, c'est pas la solution avec un L majuscule A majuscule, c'est la meilleure solution qu'on ait aujourd'hui de décarboner la mobilité. Donc effectivement, quand on regarde la production des véhicules électriques, ils partent avec un handicap, c'est leur batterie. Mais en fait, on se rend compte que très rapidement, et ça, les études convergent là-dessus, je pense à l'ADEME, je pense à Carbone 4, qui convergent sur ce fait, c'est que au bout de 30-40 000 km, en fait, la voiture électrique devient plus vertueuse que son équivalent thermique, parce que on a atteint le point de pivot et finalement, bah, avec notre mix carbone, comme on dit, en tout cas en France et même en Europe, après 40 000 km, en fait, c'est pas qu'elle est zéro carbone et zéro émission, c'est qu'elle génère beaucoup moins de carbone que l'équivalent thermique, qui lui va continuer de toute façon à brûler du carburant, du pétrole, jusqu'à 100, 200 000 km, 300 000 km. Voilà. Alors, on revient sur le débat SUV, etc. Donc, effectivement, plus un véhicule est gros, plus il a une grosse batterie et plus son handicap de départ et gros. Maintenant, c'est généralement des véhicules qui roulent beaucoup. Donc, peut-être que leur point pivot à eux sera pas à 30-40 000 km, il sera peut-être à 70 000, 100 000 km. Les batteries sont prévues aujourd'hui pour dépasser le million de miles, 1,6 million de kilomètres. Donc, effectivement, sur la durée, il faut regarder sur la durée, encore une fois, nous sommes convaincus que le véhicule électrique est mieux que le véhicule thermique. N'est pas la solution, mais est mieux que le véhicule thermique.
Voilà. Il n'y a donc pas de vérité absolue dans ce domaine. Mais ce qui est sûr, c'est que si on met une voiture électrique face à une voiture thermique sur le ring de la pollution, eh bien la voiture électrique gagne, car elle permet, en France et dès aujourd'hui, de diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec une voiture thermique. Alors certes, on peut encore améliorer les caractéristiques de la voiture électrique pour la rendre encore plus vertueuse. Nous verrons ça d'ailleurs dans un prochain épisode. Mais rappelons quand même qu'en 2035, les ventes de véhicules thermiques seront interdites pour les véhicules neufs en Europe. L'électrique risque donc de devenir majoritaire sur le parc automobile.
Vous posez peut-être d'autres questions autour des nouvelles mobilités et des solutions surtout pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre? Eh bien, rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
Vous êtes sur 8FM avec moi. Une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Le gros plan de la rédac. Mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre. Épisode 2.
La batterie des véhicules électriques et hybrides est-elle un problème pour la planète ? S'il y a bien un sujet qui est sur toutes les lèvres quand on parle de ces nouvelles mobilités, c'est celui de la batterie. Aujourd'hui, on ne sait pas les recycler, nous disent certains, et ça donne donc un véhicule en réalité beaucoup plus polluant que son équivalent thermique. Affirmation qui apparaît comme une vérité absolue pour beaucoup. Évidemment, tout n'est pas faux, sauf que la réalité est en fait un petit peu plus complexe. Commençons par aborder la question de la durabilité d'une batterie. C'est le point qui fait que certains acceptent ou pas de se tourner vers un véhicule électrique plutôt que thermique. Pourquoi ? Parce que la batterie coûte cher à produire et augmente donc considérablement le prix du véhicule à l'achat. Heureusement, la technologie avance plutôt vite. Avec elle, celle des batteries des véhicules. La conséquence directe, c'est la baisse de leur prix de 6% entre 2021 et 2022, selon un rapport annuel de Bloomberg. L'autre conséquence, c'est leur durée de vie. Pas besoin de vous affoler si vous souhaitez passer à l'électrique. Les batteries ont une durabilité qui peut varier de 10 à 20 ans avant d'avoir à les remplacer, d'après les estimations actuelles. Et c'est même le cas si vous utilisez votre véhicule électrique tous les jours. Prenons l'exemple d'une petite citadine, véhicule que possède Vincent Larnicol de la Fédération Française des Associations de Véhicules Électriques.
Moi, j'ai acheté ma Yon il y a plus de 10 ans, donc à l'époque, elle était garantie 50 000 km. J'en ai aujourd'hui 120 000, elle roule impeccable. Donc en termes de durabilité au niveau des batteries, j'ai perdu un petit peu en autonomie, mais ça reste des voitures fiables. Et puis aujourd'hui, il y a Tesla qui annonce des batteries avec une autonomie d'un million de miles, je crois. Donc je pense qu'avec un million de miles, vous avez le temps de changer la carrosserie un certain nombre de fois. La technologie a énormément évolué depuis que moi j'ai acheté ma voiture. Aujourd'hui, on a des batteries qui sont fiables et qui sont durables.
L'autre question systématiquement soulevée quand on évoque les batteries des véhicules électriques, c'est le recyclage. Alors il est vrai que c'est aujourd'hui l'un des points noirs de ces nouvelles mobilités. Il est cependant aussi vrai de dire que la filière du recyclage existe déjà. Certes, elle est encore plutôt balbutiante et la raison est simple, le nombre de véhicules électriques en fin de vie est encore très faible.
Le recyclage aujourd'hui, c'est pas vraiment un sujet parce qu'il n'y a pas de batterie à recycler. Donc recycler une batterie de voiture électrique, c'est pas une difficulté. Il y a des entreprises qui sont en train de se mettre sur ce marché-là. Aujourd'hui, il y a les ventes de voitures électriques en masse sont quand même assez récentes. Donc il y a moi ma voiture que j'ai achetée à 10 ans, la batterie elle est pas encore à recycler. Donc qu'il y ait pas d'entreprise qui recycle les batteries, il y en aura lorsqu'il y aura des batteries à recycler, puisque les batteries en plus elles ont souvent une seconde vie. Une fois que elles ont perdu de l'autonomie, elles sont encore réutilisables dans des usages stationnaires où on peut utiliser des batteries vieillissantes.
Alors le problème, c'est qu'il va quand même falloir sérieusement s'y mettre un jour. Aujourd'hui, quand on parle de batteries de véhicules électriques, on considère principalement les batteries composées de lithium, un métal qui, en cas d'incendie, peut dégager des fumées toxiques et irritantes. Donc le stockage ne sera pas nécessairement une solution comme on peut déjà le faire pour les déchets nucléaires. Mais on vous rassure, beaucoup d'entreprises y travaillent aujourd'hui. Et parmi les solutions, il y a évidemment la réparation des batteries. Modèle qu'il faudrait d'ailleurs peut-être adopter de façon un peu plus globale dans notre quotidien, au-delà des batteries. Donc ça, c'est l'une des pistes qui est envisagée, mais il y en a d'autres. C'est ce que nous explique Frédéric Mourier, l'un des fondateurs du projet Avatar Mobilité, qui conceptualise en ce moment un petit véhicule électrique, aussi en mesure de se recharger tout seul. Même s'il admet que tout n'est pas forcément tout rose dans le recyclage des batteries, il reste optimiste.
Il y a des vraies questions à se poser et il faut se les poser, c'est important. Néanmoins, ça ne manque pas de solutions en face. On a déjà la possibilité effectivement de réparer les batteries en changeant des cellules qui seraient fatiguées et de redonner un second souffle aux batteries. On peut aussi, à partir de plusieurs batteries dites usagées, en refaire des neuves. C'est un petit peu la voie qu'on explore chez Avatar. On a déjà fait une batterie, par exemple, entièrement avec des cellules de récupération de seconde vie. C'est aussi choisir des chimies de batteries qui sont peut-être moins impactantes ou avec plus de cycles possibles. Néanmoins, c'est des sujets sur lesquels énormément de boîtes et de labos travaillent, avec des avancées régulières, presque quotidiennes, sur des batteries plus propres et de plus grande capacité, de moindre coût, etc. Donc il y a des vraies bonnes nouvelles qui arrivent. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut se désintéresser de leur réparation, réemploi ou recyclabilité. Les trois volets sont vraiment à explorer.
Il existe donc bel et bien des solutions. Et heureusement, les entreprises du secteur y travaillent déjà. Maintenant, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que réussir à recycler n'importe quelle batterie électrique de n'importe quel véhicule restera viable d'un point de vue environnemental ? Est-ce que la batterie est le seul problème du véhicule électrique ? Eh bien, ce n'est encore une fois pas si simple. La réalité aborde même un point un peu plus philosophique. C'est un fait, le véhicule électrique est aujourd'hui notre meilleure solution dans un système qui reste, dans tous les cas, l'un des plus polluants qui soit. Mais cette mobilité peut vite devenir un non-sens à bien des égards, et notamment quand on parle du poids du véhicule. Aujourd'hui, les constructeurs ont tendance à calquer le modèle du véhicule électrique sur son rival thermique, c'est-à-dire qu'on continue de produire des grosses voitures, comme des SUV par exemple, signe inconscient de réussite et de succès pour la plupart d'entre nous. Mais tout comme un véhicule thermique, un gros véhicule électrique est bien plus exigeant en termes de ressources. L'autre question à se poser désormais, quand on pense nouvelle mobilité, c'est aussi notre rapport à nos déplacements. A-t-on vraiment besoin d'un véhicule qui permette de rouler vite et loin, quand nos déplacements quotidiens ne sont finalement que de courts, voire de moyens trajets ? Aurélien Bigot est chercheur sur la transition énergétique des transports, et pour lui, ces interrogations, toutes liées à la batterie des véhicules électriques, sont même centrales.
Une grande partie des impacts environnementaux du véhicule électrique sont liés à la production de la batterie, et du coup, on a intérêt à aller vers des véhicules qui sont plus légers, qui consomment moins d'énergie, et des véhicules pour lesquels la batterie et du coup l'autonomie ne sont pas trop surdimensionnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les véhicules électriques qui sont vendus par les constructeurs, ça va être des véhicules électriques de 1,5 tonne, voire plus, qui vont avoir plusieurs centaines de kilos de batterie et pour lesquels on va miser sur une autonomie de l'ordre de 300, 400 kilomètres, etc. Alors qu'en comparaison, en fait, les besoins du quotidien, les trajets qui sont faits au quotidien, en moyenne, ils font 11 kilomètres de distance. Donc, pas forcément besoin de véhicules de 5 places qui vont jusqu'à 180 kilomètres heure avec 300, 400 kilomètres d'autonomie, etc. Quand les trajets du quotidien sont souvent des trajets avec une, deux personnes à l'intérieur pour quelques kilomètres sans qu'il y ait forcément besoin d'aller à 180 km/h, c'est possible sur aucune des routes en France d'ailleurs.
Alors que penser de tout ça ? À la question « La batterie des véhicules électriques et hybrides est-elle un problème pour la planète ?» La réponse est oui et non. Toute la question du recyclage, et que l'on peut entendre dans toute conversation, repose aujourd'hui sur son lot de clichés. La réalité est qu'effectivement le recyclage reste l'une des principales problématiques des batteries, au-delà de leur production, mais la réalité est aussi que l'homme a toujours su s'adapter et qu'on travaille déjà sur cette question essentielle. Plusieurs alternatives s'offrent même déjà à nous, entre réparation, recyclage et même réutilisation de la batterie et de certains de ses éléments à des fins totalement différentes, point que nous aborderons d'ailleurs dans un autre épisode de ce podcast. Il semble tout de même qu'aujourd'hui l'impact environnemental d'une batterie repose sur l'utilisation que l'on en fait. Il semble nécessaire aujourd'hui de revoir notre rapport à la mobilité. Plus nos véhicules correspondront réellement à nos déplacements, mieux ce sera. Voilà pour la question de la batterie des véhicules électriques et hybrides, mais vous vous posez peut-être d'autres questions autour des nouvelles mobilités et de nos solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.
C'est la fin pour moi. Je vous retrouve la nuit prochaine sur 8FM. Passez une bonne fin de nuit. Au revoir.
We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I.
When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. We were two broken parts from the same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So come here close for
tonight, the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love.
Tonight, the weekend, I don't wanna wait. Ici, c'est 8FM.
And I don't wanna believe that maybe this is the end. I know you're kind of a tease, but is this really pretend? Something tells me I'm wrong, but you I never can tell. The way you drag me along, the way I put you through hell. Tell me, am I insane? Is this where we belong? Is it pleasure or pain that we're still hanging on? Going out of my head, you know true love is dead. But what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines. 10 feet and I'm going out of my mind. I'm not right without you, is that so wrong? I can't help but walk through your landmines. I'm bleeding. Maybe I'm out of luck, or maybe all of it's bad. I'm not sure why we broke up, it was the best that I'd had. To say it's all for the best, I think the fate is a lie. And now my hair is a mess, and you're a little bit high. Should I give it a chance? Is it ever enough? No more blood on our hands, no more fucking it up. Going out of my head, all the tears that I've bled. And what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines. 10 feet and I'm
FM. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. We got the crew in the area. Still love it like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. We got the crew in the area.